Des aventures de Tom Sawyer, chapitre 11, scrupules de conscience. Le lendemain, dès midi, tout le village était au courant des lugubres événements de la nuit. La nouvelle courut de bouche en bouche, de groupe en groupe, de maison en maison. Presque aussi vite que l'eût propagé le télégraphe, s'il avait existé à cette époque. Le maître d'école crut de son devoir de donner congé à ses élèves pour l'après-midi. L'opinion publique n'aurait pas admis qu'il en fût autrement. Un coutelas ensanglanté avait été trouvé près du cadavre et quelqu'un, disait-on, avait reconnu l'arme comme appartenant à Muff Potter. Un habitant du village, rentrant tard chez lui, aurait, vers 1 ou 2 heures du matin, rencontré Potter se lavant dans le ruisseau. Là-dessus, Potter se serait sauvé sur le champ. Détail d'autant plus pertinent que, chez Potter, les soins de propreté laissaient notoirement à désirer. Des perquisitions auraient été faites un peu partout dans le village pour retrouver le meurtrier. Le public a tâché de tirer des conclusions et de rendre son verdict. Mais le meurtrier serait resté introuvable. Des agents de la police montée étaient censés parcourir les routes dans toutes les directions et le shérif aurait bon espoir de mettre la main sur le coupable avant la nuit. Toute la ville se rendit au cimetière. Tom imposa silence à ses peines de cœur pour y aller lui aussi. Non qu'il n'eût mille fois préféré être ailleurs, mais parce qu'une attirance inexprimable, irrésistible, l'entraînait. Arrivé à l'endroit fatal, il se glissa dans la foule des badauds. Il avait l'impression qu'un siècle s'était écoulé depuis la scène de la nuit. Quelqu'un lui pinça le bras. Il se retourna. C'était Huck. Comme s'il s'était donné le mot, les deux gamins tournèrent les yeux dans une autre direction de crainte que quelqu'un ait pu surprendre leur premier regard. Mais, consacrant toute leur attention au triste spectacle qui s'offrait à eux, les gens échangeaient leurs impressions. Pauvre garçon. Pauvre jeune homme. Voilà ce que c'est que de violer des tombes. Si on pince Muff Potter, son compte est bon. Les langues allaient leur train. Le pasteur émit l'idée qu'il fallait voir là-dedans l'intervention de Dieu. Tout à coup, Tom frissonna de la tête aux pieds. Il venait d'apercevoir le visage impassible de Joe l'Indien. À ce moment, un remous se produisit dans la foule. Des voix s'élevèrent. « Le voilà ! Le voilà ! C'est lui ! Mais qui ? Qui ? Muff Potter ! Le voilà qui s'arrête ! Attention, il s'en va ! Ne le laissez pas partir !» Des gens qui étaient grimpés dans les arbres au-dessus de Tom dirent que Potter n'essayait pas de fuir, mais qu'il paraissait hésitant, embarrassé. « Quelle toupée infernale ! » dit un spectateur. Monsieur revenait voir son œuvre et il ne pensait pas trouver tant de monde. La foule s'écarta. Le shérif approchait, tout fier de tenir Potter par le bras. Le pauvre homme, livide, les yeux hagards, suait l'épouvante. Devant le cadavre, il fut pris de tremblements convulsifs, se cacha le visage dans les mains et fondit en larmes. « Ce n'est pas moi, » sanglota-t-il. « Parole d'honneur. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça. »« Qui t'accuse ?» dit une voix. Le coup porta. Potter leva la tête et jeta autour de lui un regard désespéré. Il aperçut Joe l'Indien. « Oh, Joe, tu m'avais pourtant promis de ne jamais... »« Ce couteau, est-il à vous ?» demanda le shérif en présentant l'arme du crime. Si on ne l'avait pas retenu, Potter serait tombé. Il dit... Quelque chose me poussait à revenir, et à un tremblement le secoua. Il fit de la main le geste de tout abandonner et balbutia. Dis-leur, Joe. Vas-y, dis-leur. Ça n'a plus d'importance maintenant. Muet, les yeux écarquillés, Huckleberry et Tom écoutèrent le scélérat débiter cyniquement son histoire. Les enfants s'attendaient à chaque instant à voir le feu du ciel lui tomber sur la tête et il trouvait que la vengeance divine était bien longue à venir. Les deux gamins furent d'abord tentés de manquer à leur serment pour sauver la vie du malheureux prisonnier trahi. Mais quand ils constatèrent que Joe était toujours sain et sauf, ils jugèrent plus prudent de ne pas parler. Il devenait évident pour eux que le mécréant avait vendu son âme au diable et qu'il pourrait être dangereux de s'attaquer au client d'un aussi puissant patron. « Pourquoi n'avez-vous pas fui ? Pourquoi venir ici ?» demanda quelqu'un. « Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu faire autrement. » gémit Potter. « J'aurais voulu me sauver, mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir ici. » Et il sanglota. Quelques minutes plus tard, par devant jury, Joe l'Indien confirma sa déposition sous serment, avec la même assurance. Voyant que la colère divine ne se manifestait toujours pas, Huck et Tom furent de plus en plus convaincus que Joe avait vendu son âme au diable. Il leur en imposait tellement que les enfants ne le quittaient pas des yeux. En leur fort intérieur, ils se promirent de l'épier la nuit, quand l'occasion s'en présenterait, dans l'espoir d'entrevoir son redoutable maître. Joe l'Indien aida à enlever le cadavre de la victime et à le charger dans le camion qui devait l'emporter. Et dans la foule qui frissonnait, le bruit se répandit que la blessure saignait un peu. Les enfants pensèrent que ce détail providentiel allait orienter les soupçons dans la bonne direction. Mais leur espoir fut déçu. Plusieurs villageois ayant fait observer, quand le cadavre a saigné, Muff Potter était à moins d'un mètre. Pendant plus d'une semaine, la garde de son terrible secret et les scrupules de sa conscience troublèrent le sommeil de Tom. Si bien qu'un matin, au petit déjeuner, Sid finit par lui dire « Qu'est-ce qu'il y a, Tom ? À force de remuer sans arrêt dans ton lit et de parler pendant ton sommeil, tu m'empêches de dormir la moitié de la nuit. » Tom pâlit et baissa les yeux. « C'est mauvais signe !» décréta la tante Polly. « Qu'est-ce que tu as dans la tête, Tom ?»«
Rien, rien que je sache, ma tante, » dit Tom.
Mais ses mains tremblèrent tellement qu'il en renversa son café. Sid insista. « Et tu en racontes des histoires. L'autre nuit, tu as crié « du sang, voilà ce que c'est !» Tu as répété ça je ne sais combien de fois. Et puis tu as dit « Ne me torturez pas comme ça, je dirai tout !» Tout quoi ? Qu'est-ce que tu vas dire ?
Tom sentit la tête lui tourner. Comment allait-il s'en tirer ? Par bonheur, la tante Polly, sans le vouloir, vint à son secours.
C'est un horrible meurtre. J'en rêve moi aussi, presque toutes les nuits. Il m'arrive même de rêver que c'est moi qui l'ai commis.
Mary déclara à son tour qu'elle aussi avait eu des cauchemars.
Sid parut convaincu. Tom s'esquiva aussitôt qu'il put. Pendant plus d'une semaine, il prétexta un mal de dents pour pouvoir se bander la mâchoire la nuit. Il ne sut jamais que Sid, relâchant le bandage, l'épiait pendant son sommeil, restait pendant des heures appuyé sur son coude pour écouter et remettait ensuite le bandage en place. Mais l'agitation de Tom se calma progressivement. Son mal de dents devenait ennuyeux. Il l'abandonna. Si par les bavardages nocturnes de Tom, Sid avait appris quelque chose, en tout cas, il ne révéla jamais rien. À l'école, il sembla à Tom que ses camarades ne cessaient pas de mener des enquêtes à propos de chaque revêt, ce qui contribua à entretenir son malaise. Sid remarqua que, bien que Tom eût l'habitude de jouer le premier rôle chaque fois qu'il y avait un nouveau jeu, il se refusait régulièrement à faire le juge d'instruction dans ces sortes d'affaires. Il ne pouvait pas non plus être témoin, ce qui lui parut bizarre. Il n'échappa pas à Sid que Tom montrait une véritable aversion pour ses enquêtes et les évitait toutes les fois qu'il pouvait. Sid s'étonnait, mais ne disait rien. Le jeu finit par passer de mode et la conscience de Tom fut enfin laissée en paix. Entre-temps, presque tous les jours, Tom trouvait une occasion
pour aller jusqu'à la fenêtre grillagée de la cellule de Muff Potter, afin de faire passer au meurtrier quelques douceurs qu'il avait pu se procurer. La prison était une petite construction en briques, près d'un marécage à la lisière du village. Rarement occupée, elle n'avait pas de gardien. Ses menues offrandes aidaient grandement Tom à soulager sa conscience. Dans le village, nombreux étaient ceux qui auraient bien voulu punir Joe l'Indien d'avoir déterré un cadavre. Mais on avait tellement peur de lui que personne n'osait en prendre l'initiative. On dut y renoncer. Le scélérat, ayant pris soin de commencer ses dépositions par le récit du combat, sans mentionner la violation de sépulture qui l'avait précédée. On estima qu'il n'y avait pas lieu de l'inculper pour le moment.